Les podcasts du Collège de France, droit.
Bien, nous nous retrouvons pour aborder la deuxième partie du cours qui est intitulée « Danger pour les États et mutation de l'État de droit ». Alors, quand on passe les dangers pour les personnes, c'était le thème de la première partie, aux dangers pour les États, on se trouve en fait ramené de ce que j'ai appelé la dernière fois les choix anthropologiques vers des choix qui sont plutôt de nature politique. Donc on se trouve ramené à ce que j'avais évoqué en introduction, les contradictions idéologiques. En effet, le droit à la sûreté et l'ébauche d'une vision libérale qui soumet l'État au droit. C'est le bill d'habeas corpus, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais en même temps, le droit à la sûreté, on l'avait vu dès l'introduction, porte en lui, en quelque sorte, sa propre contradiction. Car la référence à la sûreté publique, qui est déjà inscrite dans la Constitution de 1791, permet de fonder les notions d'état d'urgence et d'état d'exception qui vont légitimer, alors bien sûr c'est en cas de danger pour la nation, mais tout de même légitimer des pratiques autoritaires qui sont apparemment contraires à l'état de droit. Alors j'ai dit apparemment contraires, car en réalité entre deux notions aussi incertaines et aussi évolutives que l'état de droit et l'état d'exception, la relation est extrêmement complexe. Alors, il faut peut-être revenir à ces notions de départ. La notion d'état de droit, en fait, elle est associée à la construction politique de l'État. En général, on la fait remonter, des auteurs comme Blandine Criégel, en tout cas, aux auteurs français du XVIe siècle, puis à Montesquieu, quand il oppose le gouvernement par le droit au despotisme du gouvernement par les hommes. Mais en fait, c'est seulement au XIXe siècle que le thème sera systématisé, et pas en France, en Allemagne. C'est la doctrine allemande qui sera tardivement ensuite reprise en France au XXe siècle. Alors petit à petit, ce qui va s'affirmer, c'est une sorte de synthèse entre, je dirais, le formalisme juridique du Reichstag allemand et la vision plus procédurale de la rule of law d'origine britannique. Et ainsi, la notion d'état de droit devient ce que Jacques Chevalier a appelé un véritable standard international, en gros depuis les années 90. Alors on peut dire que c'est une notion qui désigne un état soumis au droit dans un double sens, des garanties juridiques institutionnelles, essentiellement la séparation des pouvoirs, et des garanties substantielles, le respect des droits fondamentaux. Alors maintenant, l'état d'exception. Là aussi, c'est une notion évolutive qui renvoie d'abord peut-être à l'idée du droit romain, qu'il faut suspendre en cas de péril, en cas de tumulte, c'est le mot latin, c'est tumultus, l'ordre juridique en vigueur. C'est ce qu'on appelait le jus stitium, du verbe stitere, qui veut dire arrêter ou interrompre ou suspendre. Mais au XVIe et au XVIIe siècle, avec les théoriciens de la souveraineté et de la raison d'État, l'exception semble perdre son caractère exceptionnel. Dans une thèse récente dont vous avez la référence dans l'affiche, on voit très bien que selon Jean Bodin notamment, est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. Mais Bodin précise toutefois que le souverain, s'il peut déroger aux lois ordinaires, ne peut pas déroger aux lois qu'on appelle alors divines et naturelles. Alors cela étant, l'idée de suspension de l'ordre juridique en cas de danger, en cas de péril pour la nation, eh bien c'est à l'époque révolutionnaire qu'elle va réapparaître. Il y a l'état de siège qui est instituée par l'Assemblée constituante en juillet 1791, et puis surtout la notion même de suspension du cadre constitutionnel est introduite pour la première fois dans la Constitution de 1793, à l'article 92. Et comme vous le savez, c'est une notion qu'on retrouve aujourd'hui dans la Constitution de 1958, notre Constitution actuelle, à l'article 16. C'est le même objectif, protéger l'État. Alors l'article 16 dit « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. » D'où le risque, quand les droits fondamentaux ne sont pas explicitement préservés, de mettre en danger les libertés au motif de défendre l'État. Et on a à l'esprit le triste exemple de la République de Weimar, qui avait fait un usage quasi continu de l'article 48 de la Constitution, qui permettait de suspendre tout ou partie des droits fondamentaux en cas de menace grave pour la sécurité ou l'ordre public. Le résultat, c'est qu'elle a facilité, sans qu'il y ait eu besoin d'un changement de constitution, l'avènement du nazisme. En 1932, l'état d'exception était alors devenu permanent et il avait conduit à l'instauration d'un régime totalitaire. On peut dire qu'à l'époque, l'état de droit n'a pas résisté. Alors, est-ce qu'il faut en déduire qu'il y aurait antinomie entre l'état d'exception et l'état de droit? Il y a des auteurs comme Giorgio Agamben, vous avez la référence aussi dans l'affiche, qui semblent penser, au fond, ils situent l'état d'exception au centre du pouvoir et ils y voient un espace vide, je le cite, où une action humaine sans rapport avec le droit fait face à une norme sans rapport avec la vie. Au fond, ouvrir un tel espace serait toujours une menace pour l'état de droit. Et il ajoute, parce que son livre est récent, que depuis la riposte des États-Unis aux attentats du 11 septembre, la menace est encore accrue, parce qu'il y aurait une sorte de déploiement planétaire, ce sont ces termes, de l'état d'exception. Planétaire dans l'espace, et en même temps, dans le temps, l'état d'exception quasi permanent contribuerait, écrit-il, à l'irrésistible progression de ce qui a été défini comme guerre civile mondiale. Alors, cela étant, l'analyse politique ne rend peut-être pas suffisamment compte de la diversité des pratiques juridiques, car l'exception devient permanente, mais par des glissements successifs qui aboutissent peut-être à légitimer ces pratiques que nous avions évoquées dans la première partie du cours. J'avais parlé de déshumanisation du droit pénal, de radicalisation des procédures de contrôle, et finalement qui aboutissent à engendrer des régimes de suspicion. Alors, ce que je voudrais faire dans cette seconde partie du cours, c'est consacrer un premier chapitre à l'étude de ces glissements. Et j'ai intitulé le premier chapitre « État d'exception et régime de suspicion ». Je vous annonce d'emblée l'ensemble de la partie, de la seconde partie, car je voudrais montrer ensuite, dans un deuxième chapitre, ce sera la semaine prochaine, qu'une approche purement politique, centrée sur la raison, ou peut-être faudrait-il dire la déraison d'État, sous-estime les ressources juridiques et sous-estime ce qui me paraît être la capacité de résistance des systèmes de droit contemporains. Car l'histoire ne se répète pas à l'identique. Et je crois que la grande nouveauté de l'après-guerre, c'est le double mouvement interne et international de constitutionnalisation et d'internationalisation des systèmes de droit qui se substituent en quelque sorte aux lois divines et naturelles, qui leur substituent un droit qu'on peut appeler supra-législatif, au-dessus de la loi, et supranational, au-dessus de l'État. Alors bien sûr, ce mouvement n'a pas les mêmes effets dans tous les États, mais je dirais qu'il devient impossible, même pour une superpuissance comme les États-Unis, voire même pour un État continent comme la Chine, de les ignorer complètement. En partie, oui, mais complètement non. Au plan interne, le rôle des cours constitutionnelles, même s'il est limité bien souvent par le poids du politique, permet d'encadrer l'état d'exception et de réintroduire certaines contraintes de l'état de droit. Et dans la partie précédente du cours, nous avons vu des exemples. Nous avons vu en 2004 l'annulation par la Chambre des Lords, au Royaume-Uni, de la loi prévoyant la détention indéfinie des étrangers. Et puis nous avons vu en 2008 l'exemple de la Cour suprême des États-Unis, l'arrêt Boumediene, reconnaissant un droit à l'habeas corpus pour les détenus de Guantanamo. Cela étant, au plan international, la situation est plus nuancée, elle est plus incertaine. Jean-Claude Monod, dans son livre « Penser l'ennemi, affronter l'exception », évoque une déstabilisation du droit de la guerre. Alors, il n'a pas tort en ce sens que l'exception de la légitime défense, à partir du moment où le Conseil de sécurité l'a appliquée en 2001 à l'agression terroriste, est quasiment devenue la règle. Et avec les concepts de guerre préemptive ou préventive, on l'étend encore. De même, on pourrait dire que la clause échappatoire qui est insérée dans le droit international des droits de l'homme et qui autorise en cas de circonstances exceptionnelles des dérogations aux garanties de l'état de droit, au fond, protégerait la raison d'état. Mais il ne faut pas se tromper sur la signification de cette clause échappatoire. C'est celle qu'on trouve à l'article 15 de la Convention européenne ou à l'article 4 du pacte sur les droits civils et politiques. Parce que ce qu'elle prévoit, ce sont des dérogations limitatives. La torture, par exemple, n'est jamais admise, même en cas de circonstances exceptionnelles. Et puisque cette clause rend possible aussi, quand il existe un contrôle, c'est-à-dire essentiellement au niveau régional, Cour européenne, Cour interaméricaine des droits de l'homme, ce qu'elle rend possible, c'est un encadrement de la clause échappatoire et de ses conditions par le droit et par le juge international. Donc ça nous amènera dans le second chapitre, la semaine prochaine, à analyser comment la réponse aux dangers menaçant les États varie entre une politique autoritaire et une politique libérale. Elle varie au fond selon l'existence et les modalités de ce contrôle national et international qui permettrait, c'est la formule que nous avions employée il y a quelques années avec des collègues, qui permettrait de raisonner la raison d'État, pas d'abolir la raison d'État, mais de raisonner la raison d'État, de l'encadrer juridiquement. Alors, voilà un peu le programme d'ensemble de cette deuxième partie. Mais pour aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur ces dérives qu'on nomme état d'exception et régime de suspicion. Je vais limiter ce premier chapitre aux pratiques juridiques contemporaines. Et je réserve pour le chapitre 2 le retour sur les totalitarismes du début du XXe siècle et le débat qui a été ouvert par Carl Schmitt, qui dès 1922 défendait l'état d'exception au nom de la souveraineté, avec une lecture de Bodin peut-être un peu réductrice. Car même si ce juriste allemand, qui est très controversé pour ses positions ultérieures, est très souvent évoqué depuis le 11 septembre, il me semble que les pratiques actuelles n'autorisent ni à confondre les États-Unis du XXIe siècle avec l'Allemagne d'avant-guerre, ni à confondre, disons, dans une Europe en voie d'intégration, les pays européens d'aujourd'hui avec les ancêtres totalitaires d'hier. Cela étant, le constat que je viens de faire n'exclut pas pour autant les dérives. Il y a des dérives quand la sécurité l'emporte sur les libertés, quand la raison de l'État l'emporte sur les garanties de l'État de droit. Et au fond, mon objectif ici, c'est d'essayer d'analyser ces dérives par rapport à l'État de droit. Alors, il faut repartir de l'état d'exception et de l'état d'urgence, qui sont compris généralement comme une suspension, suspension voulant dire en même temps provisoire, des garanties de l'état de droit en raison de circonstances exceptionnelles. Et on énumère une guerre, une insurrection, une catastrophe naturelle ou une épidémie qui, précisément parce qu'il y a urgence, appelle une action immédiate au nom de la nécessité, tout simplement. Mais dès 1982, donc bien avant les attentats du 11 septembre 2001, Madame Questio montrait dans une étude pour la Commission des droits de l'homme de l'ONU, vous avez la référence de cette étude dans l'affiche, elle montrait que le provisoire, il s'agissait d'étudier les situations dites d'état de siège ou d'exception, elle montrait alors que le provisoire se prolonge parfois des années, voire des décennies. Et sa typologie très complexe et très fine, en même temps des déviations, comprend notamment une référence aux états d'exception permanents et à des formes complexes, voire institutionnalisées d'états d'exception. Alors je dirais que depuis le 11 septembre 2001, la menace d'un terrorisme désormais mondialisé renforce ce constat. Car les circonstances de temps ne sont plus exceptionnelles, alors que l'extension des menaces en tout lieu et la gravité des effets maintiendraient la nécessité de restreindre les garanties de l'État de droit. C'est la logique de la raison d'État. Mais cette nécessité n'impose pas toujours de suspendre l'État de droit. Suspendre, c'est ce qu'ont fait les États-Unis. Mais parfois, il suffit, et nous en avons des exemples en France et en Europe, il suffit de contourner tout ou partie des garanties en créant des circuits parallèles. Des circuits, au fond, dans lesquels l'idée d'exception prend un sens large. Ce ne sont plus des états d'exception, mais c'est un droit d'exception, c'est un régime d'exception. Enfin, les dérives ne s'arrêtent pas là, car avec ce que j'ai décrit précédemment comme une sorte de frénésie sécuritaire qui tend à transformer, au fond, le contrat social basé sur la confiance en une sorte de contrat d'assurance tout risque qui serait basé sur un principe de méfiance, eh bien, on aboutit à ces régimes de suspicion dans lesquels chaque individu est un suspect potentiel. Mais alors, cela pose un problème pratique. Comment réussir à surveiller et à contrôler toute une population quand chacun devient suspect potentiel? Il est clair que la tâche est impossible pour les seules institutions judiciaires et policières. Alors, les régimes de suspicion, inévitablement, entraîne un détournement de l'état de droit. Je dis détournement dans la mesure où il y a transfert de pouvoir. Transfert dans l'État, c'est la militarisation de la justice, la solution américaine. Transfert en dehors de l'État, parfois, c'est la privatisation, une sorte d'érosion du monopole de l'État sur la force publique, privatisation de la police, privatisation de l'armée. Au fond, vous voyez, par-delà la dualité de mon intitulé, j'avais prévu état d'exception, régime de suspicion. En réalité, il faut distinguer trois voies. La suspension, le contournement et le détournement pour bien mesurer l'ampleur des mutations de l'état de droit. D'ailleurs, ces voies peuvent s'entrecroiser, peuvent se mêler. Si on prend l'exemple des États-Unis, c'est au nom de l'état de guerre qu'il y a suspension de l'ordre juridique et que le président Bush a transféré à des commissions militaires le pouvoir de juger des actes de terrorisme. Mais en même temps, il y a un détournement par transfert des pouvoirs. Alors commençons par la suspension de l'état de droit. Dans un article récent qui est intitulé de façon un peu provocatrice « L'état d'exception n'a rien d'exceptionnel », mon collègue Michel Tropper essaye de préciser la définition de l'état d'exception. Du point de vue des circonstances exceptionnelles, il reprend la liste habituelle, mais il y ajoute les actes terroristes. Il y ajoute les actes terroristes, et du point de vue des conséquences de l'état d'exception, il précise que ces conséquences sont doubles, car on suspend provisoirement l'application des règles qui régissent ordinairement l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, et on en applique d'autres, évidemment moins libérales, qui conduisent à une plus grande concentration des pouvoirs, donc à suspendre les garanties institutionnelles, et qui conduisent à des restrictions des droits fondamentaux, on pourrait dire aussi des dérogations, donc à suspendre les garanties substantielles. Le problème, et il le voit très bien, puisque c'est ce qui donne son titre à l'article, c'est qu'en incluant les actes terroristes dans la liste des circonstances dites exceptionnelles, eh bien, on introduit un doute sur le caractère provisoire de la suspension de l'état de droit. Un doute pourquoi ? Mais parce qu'il est difficile, et Tropper le reconnaît, d'imaginer un moment où cesserait complètement toute menace terroriste. C'est pourquoi cet état d'exception n'a plus rien d'exceptionnel, et c'est pourquoi, conclut-il, c'est un peu inquiétant, cet état d'exception tend à devenir permanent et à justifier de très graves atteintes aux droits de l'homme. Et en effet, même si certaines lois post-11 septembre ont été adoptées comme des lois temporaires, elles ont toutes, pour l'essentiel, été prorogées. Le temporaire a été prorogé. Donc la question, renouvelée par les nouvelles formes de terrorisme qui ont été révélées par les attentats du 11 septembre, c'est de savoir si la démocratie peut tolérer des suspensions de l'état de droit à vocation permanente. Et à quelles conditions ? Or là, les réponses sont différentes aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, c'est très compliqué, car le système constitutionnel américain, qui est inspiré du droit anglais, ne prévoit pas explicitement l'état d'exception. En revanche, il admet, selon la common law et selon la constitution américaine, la possibilité, dans la seule hypothèse d'un acte de guerre, de suspendre l'habeas corpus et de donner des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif. Donc le dispositif créé en 2001 n'est pas fondé sur une habilitation constitutionnelle explicite, mais sur les pouvoirs exceptionnels reconnus au président des États-Unis en raison de l'état de guerre. Il fallait passer par le concept d'état de guerre. Alors, ces pouvoirs ont été votés par une loi du Congrès, 3 jours après les attentats, et ils ont été reconnus au président comme chef des armées. Donc, il ne s'agit pas d'un pouvoir législatif interne, il s'agit d'un pouvoir comme chef des armées. Ce qui veut dire que l'habilitation donnée par cette loi était assez limitée. Alors, le gouvernement a invoqué aussi une sorte d'habilitation constitutionnelle implicite qui serait fondée sur une doctrine très controversée, dite de l'unitary executive, de l'unité du pouvoir exécutif. On ne peut pas séparer le dehors et le dedans, il y a unité du pouvoir exécutif. Et c'est comme ça qu'il justifie la création, par des décrets, des commissions militaires. Finalement, ce sera mis en cause par la Cour suprême en juin 2006, et il faudra voter une loi en octobre 2006 pour maintenir ces commissions militaires. Alors tout cela amène des critiques des constitutionnalistes américains. Certains, comme Bruce Ackerman, dont vous avez la référence en note, ont proposé de créer une constitution de l'urgence, c'est-à-dire, en réalité, pas un changement constitutionnel, mais une loi cadre, qui limiterait les pouvoirs exceptionnels du président, notamment qu'il les limiterait dans le temps. Au fond, l'idée c'est d'encadrer les pouvoirs exceptionnels, mais en leur donnant un caractère provisoire. Or, précisément, le caractère provisoire paraît inadapté par rapport à la permanence de la menace terroriste. C'est très bien expliqué dans un article critique de Bernard Manin, quand il dit que pour lutter contre le terrorisme dans ses formes globales actuelles, l'état d'urgence n'est pas le bon paradigme. Tout simplement parce qu'il repose sur l'idée que le caractère provisoire suffit pour garantir l'état de droit, pour équilibrer et pour circonscrire les dérives. Alors que justement, l'exemple américain démontre que ce qui serait surtout nécessaire de faire, c'est de préciser quelles sont les restrictions substantielles qui sont compatibles avec l'état de droit. C'est ça qu'il faudrait préciser. Et de ce point de vue, l'Europe offre des réponses apparemment mieux adaptées, même si les dispositifs constitutionnels restent très diversifiés d'un pays à l'autre. Et même s'il faut rappeler qu'avant 2001, seuls quelques États membres s'étaient dotés d'une législation antiterroriste. Alors prenons quelques exemples en Europe qui soient significatifs. Je pense à l'Espagne d'abord, qui a défini dans sa constitution de 1978, au titre de la répartition des pouvoirs entre le gouvernement et le Parlement, les conditions propres aux états provisoires. Elle énumère d'ailleurs l'état d'alerte, l'état d'exception et l'état de siège. Mais cette définition dans la Constitution espagnole est reliée, doit être comprise comme reliée, au chapitre concernant la suspension des droits et libertés, qui indique au législateur, le législateur ne peut pas faire n'importe quoi au nom d'un état d'exception. Le chapitre en question indique au législateur quels sont les droits qui pourraient être suspendus s'il déclare l'état d'exception ou l'état de siège. Et en plus, la question du terrorisme est traitée distinctement. On précise distinctement l'état d'exception, la liste des droits qui peuvent être suspendus en cas de terrorisme. Alors, il y a un deuxième exemple qui est un peu moins précis, mais qui est intéressant sur le plan des droits fondamentaux, c'est la loi fondamentale allemande, qui n'établit pas de régime spécifique pour la lutte contre le terrorisme. Le mot ne figure pas dans la loi fondamentale, c'est-à-dire dans leur constitution. Mais on admet, au nom de la défense de l'ordre constitutionnel, libéral et démocratique, certaines limitations pour des raisons qui pourraient être invoquées en matière de terrorisme. D'autre part, une attaque terroriste pourrait justifier la mise en place des dispositions de la Constitution allemande concernant l'état de défense. L'état de défense est un chapitre particulier de cette Constitution, de cette loi fondamentale, qui vise un état de nécessité intérieur ou extérieur. Mais le point important, c'est que ce dispositif de défense dans le système allemand se limite à transférer les pouvoirs au chancelier sans suspendre les droits fondamentaux. Et tous les auteurs insistent sur le fait que le droit constitutionnel allemand est dominé, c'est l'histoire qui explique cela, par la volonté de maintenir autant que possible toutes les garanties de l'état de droit, même dans les conditions exceptionnelles, et notamment de maintenir les droits fondamentaux. Alors, par contraste, si on regarde la situation française, l'article 16 sur les circonstances exceptionnelles transmet les pleins pouvoirs au président, mais ne dit pas quels sont les droits qui peuvent être suspendus et ne cite pas le terrorisme dans l'énumération des circonstances exceptionnelles. On peut penser que dans le cas d'une attaque massive du type 11 septembre, l'application de l'article 16 serait peut-être concevable, mais ce qui me frappe, c'est que les comités successifs qui ont été chargés de proposer la révision de la Constitution, le comité Vedel en 1993, le comité Balladur en 2007, n'ont ni l'un ni l'autre proposé d'étendre l'article 16 explicitement au terrorisme. Au contraire, je dirais, ils ont recommandé de renforcer les garanties du caractère provisoire de l'état d'exception. C'est ça, sur l'article 16 de la réforme de 2008, La loi constitutionnelle de 2008 complète l'article 16 en indiquant qu'après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi. Après 60 jours, il procède de plein droit à l'examen des conditions. Et au-delà, il peut se saisir à tout moment. Donc on renforce le caractère provisoire. Ce qui fait que l'article 16 reste inadapté, en tout cas aux formes de terrorisme dont nous parlons, aux formes de terrorisme global dont nous parlons. Alors, il reste dans le droit français l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est aussi assez ambigu. Il a été prévu, il n'est pas dans la Constitution, il a été prévu dans le contexte des événements d'Algérie par une loi de 1955, loi du 3 avril, qui prévoit l'état d'urgence soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas de calamité publique. À vrai dire, cette loi, elle est antérieure à la Constitution. Donc on pouvait la croire implicitement abrogée en 1958 par la nouvelle Constitution. En fait, elle a été validée. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel en 1985 à l'occasion de son usage pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis cette loi de 1955 a de nouveau été utilisée, vous vous en souvenez peut-être, en novembre 2005, par le président Chirac lors d'émeutes de banlieue. Tel que le texte est rédigé, il pourrait sans doute être utilisé dans la lutte contre le terrorisme, mais à propos de l'usage de fait en 2005, le Conseil d'État, qui avait été saisi en référé, a rappelé dans l'ordonnance du juge du 9 décembre 2005 que les effets de l'état d'urgence sont par nature limités dans l'espace et dans le temps. Et précisément, cette limitation peut poser problème dans le cas du terrorisme. Ce qui explique que finalement, on fait recours, les États font recours souvent, à une autre voie qui n'est pas la suspension, mais qui est le contournement de l'état de droit. Un contournement qui permet d'une certaine façon les restrictions aux droits fondamentaux, des restrictions aux droits fondamentaux, mais sans imposer les contraintes propres aux états d'exception ou d'urgence. Donc la suspension n'est pas la seule dérive possible, il faut parler aussi du contournement de l'état de droit. Alors, il y a quelques années, j'enseignais la politique criminelle comparée à mes étudiants de doctorat et j'avais essayé de cerner les différentes stratégies utilisées par les États pour durcir la répression en politique criminelle. C'était dans les années 80. Alors, j'avais distingué trois variantes de ce que j'appelais le modèle totalitaire de politique criminelle, c'est-à-dire un modèle qui ne fait pas de distinction entre l'infraction et la déviance. Et je disais, la répression peut être soit généralisée par une clause qui permet en fait le raisonnement par analogie. L'exemple type, c'était le code pénal nazi. Tout acte contraire au saint instinct du peuple doit être criminalisé et réprimé, même s'il n'est pas explicitement visé par le code pénal. Ou alors la répression peut être dédoublée grâce à la proclamation d'un état d'exception ou d'un état d'urgence. Enfin, la répression peut être ciblée, c'est-à-dire durcie contre certaines cibles. Et je citais la criminalité organisée, mais aussi déjà à l'époque le terrorisme. Bien, on peut dire qu'en France, depuis qu'il y a eu suppression des juridictions d'exception par des lois de 81 et 82, on a supprimé la Cour de sûreté de l'État et on a supprimé les tribunaux militaires en temps de paix. Eh bien, il s'agit essentiellement de répression ciblée. Alors, Madame Lazerge, dans ses commentaires, parle de dédoublement de procédure, mais elle emploie le terme dans un sens large qui renvoie à répression ciblée. La stratégie, c'est quoi ? La stratégie, ça consiste à créer des procédures dérogatoires. Au fond, on crée des circuits parallèles, ou pour reprendre l'expression ingénieuse de Christine Lazerge, on crée des circuits qu'elle appelle bisons futés. Les circuits bisons futés. Alors, c'est très pratiqué dans la lutte contre le terrorisme et plus largement dans la lutte contre l'insécurité, au sens que nous avons étudié au début du cours. C'est une stratégie qui permet de contourner les garanties substantielles et ou institutionnelles de l'état de droit. En apparence, tout est conforme au droit, sous réserve d'un contrôle constitutionnel ou européen de la notion de nécessité. Mais ça, nous le verrons la semaine prochaine. Je m'en tiens à décrire les dérives. Alors, pour parler de procédures dérogatoires, il faut faire un tri. Parce que dans notre code de procédure pénale, si vous regardez le livre 4, qui s'appelle « De quelques procédures particulières », il y a 26 titres, 26 catégories de procédures particulières. Mais il faut faire un tri, parce que cette liste est extrêmement disparate. Il y a des régimes qui sont spécialisés et dont la spécificité est justifiée pour des raisons techniques. Par exemple, le régime applicable quand on poursuit une personne morale. Par exemple, le régime propre à la coopération avec la Cour pénale internationale ou propre à la procédure d'extradition. Mais il y a aussi dans cette liste de véritables régimes d'exception à caractère non plus technique, mais davantage politique. Au fond, on parlera de régime d'exception si les restrictions qui sont imposées au nom de la sûreté de l'État et au nom de la protection de la sécurité vont au-delà de la stricte nécessité démocratique. Alors, il peut s'agir de la liberté d'aller et venir avec des prolongations excessives de garde à vue. Il peut s'agir d'autres droits fondamentaux, la vie privée avec les régimes d'écoute téléphonique ou de perquisition. Il peut même s'agir de la dignité si on en arrive à des traitements inhumains ou dégradants. Alors, cette tendance à restreindre les garanties substantielles en contournant l'état de droit, elle avait commencé chez nous avec le trafic de stupéfiants et elle s'est essentiellement accentuée dans les années 80 puis après 2001 dans les deux domaines du terrorisme et de la criminalité organisée. Et dans ces deux domaines, le contournement de l'état de droit est facilité dans la mesure où ce que Christine Lazer j'appelle l'indice déclencheur de la procédure dérogatoire, l'indice qui va permettre de sortir du régime de droit commun pour entrer dans un régime d'exception, est défini de façon très vague. C'est la notion d'infraction liée au terrorisme ou liée à la criminalité organisée, notion insaisissable. D'autant que la notion elle-même de terrorisme est extrêmement imprécise. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui ont suivi le séminaire en juin dernier que nous avions organisé avec Henri Laurence sur les typologies du terrorisme. Nous en étions arrivés à la conclusion que le crime de terrorisme est finalement une sorte de concept de transition qui serait appelé à disparaître au profit d'incriminations plus précises. D'un côté, le crime contre l'humanité, de l'autre, les crimes ordinaires, les crimes de droit commun. Et j'ajoute aujourd'hui qu'une clarification de ce genre serait d'autant plus nécessaire qu'à la différence des constitutions allemandes ou espagnoles, qui encadrent strictement les dérogations aux droits fondamentaux, notre constitution n'a pas évoqué la question. Ce qui fait que, chez nous, le contrôle constitutionnel reste assez prudent. Je dirais qu'en la matière, c'est un contrôle qui ménage la raison d'État, Conseil constitutionnel selon la formule qu'il a pour la première fois utilisée en 81, mais qu'il reprend de décision en décision, procède à une conciliation entre les libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la recherche des infractions et de la prévention des atteintes à l'ordre public, ce qui l'amène à une très grande prudence. Alors, la question du contournement de l'état de droit est donc posée en termes de garanties substantielles. Elle est posée aussi quelquefois, et nous en avions vu des exemples, je ne vais pas y revenir en détail, elle est posée aussi quelquefois sous la forme d'un contournement des institutions normalement compétentes. Nous avions vu plusieurs exemples où la création de commissions ad hoc, de groupes ad hoc, avait permis d'éviter ou de retarder le contrôle d'autorités administratives indépendantes comme la CNIL ou la HALD en matière de discrimination, de contourner aussi, dans bien des cas, les avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une commission indépendante, et vous vous souvenez peut-être que le commissaire européen aux droits de l'homme s'était étonné de ce contournement des institutions. Mais en fait, ce contournement institutionnel, c'est surtout au niveau européen, précisément, au niveau de l'Union européenne, qu'on peut l'observer. Et pourquoi au niveau de l'Union européenne? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une sorte d'utilisation de la complexité des mécanismes européens, utilisation notamment du jeu des coopérations renforcées et des piliers. Et là, je voudrais rappeler les deux exemples que nous avions rencontrés dans les leçons précédentes, parce qu'ils sont très significatifs de ce que j'appelle contournement de l'état de droit, contournement des institutions de l'état de droit. Le premier exemple, c'était l'accord sur Passengers' Name Records, les noms des passagers dans les compagnies aériennes, l'accord passé entre l'Union européenne et les États-Unis, qui avait été négocié directement par la Commission, qui se fondait sur sa compétence au titre du premier pilier, c'est-à-dire comme s'il s'agissait tout banalement de prestations de services. Acheter un billet d'avion, c'est une prestation de service au sein de la communauté, donc la Commission est compétente, on est dans le premier pilier, compétence communautaire. Alors que l'objectif de cet accord passé après le 11 septembre 2001, c'était très clairement la lutte contre le terrorisme à des fins répressives. Or, le terrorisme relève de la compétence interétatique, c'est-à-dire du troisième pilier qu'on réussissait à contourner par cette astuce. Alors, l'accord avait été confirmé par le Conseil, donc par les États. Il avait été passé en 2004, mais il a été contesté quand même par le Parlement européen et censuré par la Cour de justice des communautés en 2006. L'arrêt de la Cour de justice dit qu'il y a eu contournement, dit que les données initialement collectées dans le cadre d'une activité de prestation de services relève bien du droit communautaire, mais que quand ces données sont utilisées pour lutter contre le terrorisme, pour sauvegarder la sécurité et à des fins répressives, cela ne relève plus du premier pilier et de la compétence de la Commission. Et la Cour de justice avait annulé l'accord, 2006. Malgré cet arrêt, un nouvel accord va être conclu et finalement entériné sous une forme légèrement mais à peine modifiée en 2007. Donc voilà un exemple de contournement. Alors le deuxième exemple que nous avions rencontré, c'était à propos des bases de données centralisées, des échanges de données, d'informations biométriques et de données à caractère personnel. C'est le deuxième exemple, c'est le fameux traité de Prüm en Pologne qui a été signé en 2005 par quelques États membres, dont l'Allemagne et la France, pour construire une base de données centralisée et précisément pour échanger ces informations et ces données à caractère personnel. En réalité, c'est un accord qui applique un principe qui avait été proposé par le programme de La Haye en 2004 sous le nom de disponibilité des informations et qui avait été d'abord écarté. Il avait été écarté parce que c'est un principe qui repose donc sur la mutualisation à l'échelle de la communauté des informations de données des traitements nationaux. Et selon l'analyse très complète et très précise de Jean-Marie Delarue, vous avez la référence à son article dans l'affiche, c'est une mutualisation qui aboutit à effacer les distinctions entre les fichiers nationaux et les fichiers communautaires. Alors, on peut se poser la question, dit-il, pour qui ? Et dans quel but ? Toute donnée nationale peut être réclamée et transmise aux autres États ou à un État tiers ou à une organisation internationale. On comprend très bien pourquoi le principe avait été écarté en raison des critiques des autorités chargées de la protection des données, d'autant qu'au passage, il faut remarquer que le contrôle, la question du contrôle est mal résolue. Et là encore, Jean-Marie Delarue cite le nombre extrêmement important des données saisies qui contrastent, dit-il, avec les maigres bilans des saisines des autorités nationales ou européennes de contrôle. Donc un contrôle difficile et insuffisant. Et pourtant, Ce traité de Prüm, qui était limité au départ à 7 États, ce qui lui avait permis d'échapper aux exigences de la coopération renforcée, est finalement intégré au cadre juridique de l'Union européenne par une décision du Conseil en juin 2008. Au fond, c'est chaque fois grâce au Conseil, donc grâce au soutien des États, que le contournement du circuit institutionnel de droit commun devient possible, malgré les protestations, notamment les protestations, là, chaque fois, du commissaire européen aux droits de l'homme. Alors, il ne faut peut-être pas être surpris de voir ces pratiques de contournement avalisées par les États, car c'est peut-être un des effets de l'enchevêtrement des espaces normatifs dont nous parlons souvent dans ce cours, que de favoriser la mise en œuvre de mesures impopulaires par une sorte de légitimation croisée. C'est très bien analysé dans l'ouvrage de Colombe Camus à propos de la lutte contre le terrorisme, mais son analyse vaut aussi dans d'autres domaines de protection de la sécurité nationale. Elle dit qu'il y a un véritable effet d'aubaine, car le droit communautaire est devenu particulièrement propice au développement des circuits parallèles de décision. Au fond, on fait valoir les impératifs américains au niveau européen pour étouffer les voix critiques, notamment au sein du Parlement européen. Et ensuite, on fait valoir les obligations européennes pour inhiber les voix critiques au sein des parlements nationaux. Vous voyez la double astuce. Ce qui fait qu'il y a des ONG, des organisations non gouvernementales, qui, en 2004, ont inventé ce concept qu'ils appellent « policy laundering ». C'est calqué sur ce qui est connu sous le nom de « money laundering », le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine de fonds acquis de façon délictueuse en les recyclant dans des activités légales. Eh bien, le policy laundering, ça consiste à utiliser les institutions internationales pour mettre en place des politiques qui se heurtent à la résistance des institutions nationales. Alors, elles sont adoptées comme des décisions auxquelles les États sont tenus de se conformer, et donc les politiques en question échappent au débat démocratique. En somme, le recyclage est réalisé au prix d'un contournement du processus législatif. Vous voyez la complexité des dérives possibles de l'état de droit. Mais ces dérives ne s'arrêtent pas là, car le régime de suspicion qui est ainsi institué par la suspension et le contournement des garanties conduit à la tentation, je dirais, la tentation d'un transfert de pouvoir. Et là, on en arriverait à un véritable détournement de l'état de droit. C'est le troisième et dernier point. Détournement par transfert de pouvoir dans l'État, mais aussi en dehors de l'État. Alors, dans l'État, je voudrais parler du problème de militarisation de la justice. On peut dire que la militarisation de la justice a toujours été la tentation des régimes autoritaires. Et on peut dire que la distinction en pratique est incertaine entre les tribunaux militaires à caractère permanent et les juridictions créées à la suite de circonstances exceptionnelles pour réprimer certaines infractions pendant une période temporaire, mais qui souvent s'inscrit dans une longue durée. En fait, depuis 2001, il y a eu des mutations dans le concept de la guerre contre le terrorisme, y compris dans les pays démocratiques. En général, on souligne qu'il y a eu depuis 2001 une sorte de banalisation des juridictions militaires. Alors, il y a une étude qui a été publiée en 2007, « Juridictions militaires et tribunaux d'exception en mutation », qui explique très bien ce phénomène de banalisation. L'étude rappelle que la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies ne préconise plus la suppression des juridictions militaires, mais leur civilisation autour de principes directeurs. Ce sont ce qu'on appelle les principes de Decaux, du nom d'Emmanuel Decaux qui a fait le rapport sur ce sujet. principe de cause sur l'administration de la justice. Donc il s'agit d'accepter, de prendre le pari que la démocratisation des juridictions militaires est possible et qu'elle serait le corollaire de la démocratisation du régime politique. Il ne s'agit plus de prôner la suppression, mais la démocratisation. Encore faut-il que la militarisation, le transfert de pouvoir à l'armée, aux militaires, respecte effectivement ces principes, respecte effectivement les garanties de l'état de droit. Car sinon, qu'il s'agisse de tribunaux militaires à caractère permanent ou de juridictions d'exception, au fond, peu importe, le transfert du pouvoir de juger peut constituer un véritable détournement. Et là, c'est intéressant de regarder de près l'exemple américain. Comme je vous l'ai rappelé il y a un instant, le décret pris par le président Bush n'a pas donné compétence aux tribunaux militaires américains qui existaient déjà, qui étaient déjà solidement encadrés par un droit militaire très précis, mais il a créé de nouvelles commissions militaires avec un statut, on pourrait dire, doublement dérogatoire. Dérogatoire par rapport au droit commun et dérogatoire par rapport au droit militaire. Le droit militaire américain est protecteur d'un certain nombre de garanties. Et c'est ce statut qui a permis des violations graves aux droits fondamentaux, des violations qui sont maintenant officiellement reconnues depuis l'élection du président Obama. On affiche ouvertement un certain nombre de critiques. En janvier 2009, la chef des commissions militaires à Guantanamo, Susan Crawford, a reconnu, au terme d'une enquête de 2 ans sur les techniques utilisées dans les affaires en cours, que plusieurs détenus avaient été torturés. Et notamment dans une affaire Al-Qahtani, elle a refusé de poursuivre l'instruction alors qu'elle considérait que la personne en question est un homme extrêmement dangereux. Mais les irrégularités commises l'ont amené à refuser de poursuivre l'instruction. Ce qui est d'ailleurs au passage un constat expliquant l'extrême difficulté de la fermeture du camp de Guantanamo qui a été annoncée mais qui est en cours de négociation sur le plan pratique. Et du point de vue officiel, il y a surtout en janvier 2009, à la même date que les déclarations de Susan Crawford, il y a surtout un rapport volumineux, près de 500 pages, du US House Committee on the Judiciary, si vous voulez en gros la commission des lois de notre Assemblée nationale. Un rapport qui est en forme de réquisitoire, vous avez le titre exact dans l'affiche, le titre en lui-même est une critique. « Reigning in the Imperial Presidency », la présidence impériale, et puis « Leçons et recommandations concernant la présidence de George Bush ». Alors, c'est un rapport qui aide tout à fait à comprendre comment l'usage des pouvoirs exceptionnels par l'administration du président Bush a pu constituer un détournement. Car ils ont été au-delà de ce qui était admis au titre de la suspension aux raisons de l'état de guerre. La suspension était admise pour prévenir une nouvelle agression, to deter and preempt any future act of terrorism or aggression against the United States. Il y a donc détournement dès lors que les pouvoirs ont été exercés bien au-delà de cette prévention immédiate du risque de terrorisme, far beyond any targeted response to the attacks. Il y a eu détournement dans le temps, puisque la suspension a été utilisée 18 mois après les attentats pour légitimer l'usage de forces militaires contre l'Irak. Et il y a eu détournement dans le contenu, puisque les commissions militaires ont été d'emblée considérées comme compétentes, non seulement pour des étrangers, mais pour des citoyens américains. Donc usage interne de ses pouvoirs exceptionnels en tant que chef des armées. Alors plus en détail, le rapport du comité énumère toute une série de violations de l'état de droit institutionnel. On parle de politisation de la justice par le jeu de poursuites sélectives, des violations substantielles, toute une série d'atteintes aux libertés individuelles, comme les détentions sans accès à la justice fédérale, les interrogatoires sous torture, les surveillances sans mandat, et puis on pourrait dire des violations mixtes, ce que le rapport appelle « gouvernement dans l'ombre »,« government in the shadow », notamment l'usage d'écoutes téléphoniques sans mandat judiciaire, notamment les restitutions extraordinaires de suspects qui sont envoyés dans des pays pratiquant la torture. Il y a une sorte de délocalisation de la torture, ça nous en reparlerons dans la troisième partie du cours. Et puis il y a un recours extensif à la raison d'État et au secret d'État. Alors, on a là une illustration de détournement par militarisation de la justice pénale. Mais certaines des pratiques qui sont dénoncées dans le rapport ont consisté pour l'administration à tenter de cacher ses actions en passant par des entreprises privées pour échapper à sa responsabilité. Et on a là le deuxième type de détournement, le second type de détournement de l'État de droit. Les pratiques de privatisation de la force publique, police ou armée, se sont en effet considérablement développées ces dernières années aux États-Unis, mais aussi en Europe. Alors, les attentats du 11 septembre ont sans doute stimulé ces pratiques dans la perspective, comme je le disais, américain, la perspective pour les États de mettre en place un régime de suspicion généralisée tout en échappant à leurs responsabilités en cas de violation de l'État de droit. Mais c'est un phénomène qui remonte plus loin parce que c'est un phénomène, la privatisation, qui est sans doute marqué aussi par l'emprise croissante de la pensée libérale sur la gestion des affaires publiques. On encourage la sous-traitance des fonctions traditionnellement assurées par les États. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent qu'en France, dans les années 80, il y avait eu un projet Chalandon de privatiser les prisons. Et à l'époque, on avait soulevé le problème du conflit avec l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. La garantie des droits de l'homme nécessite une force publique. Cette force est donc exercée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité de ceux auxquels elle est conférée. Et les constitutionnalistes n'étaient pas d'accord entre eux. Certains disaient que l'article 12 s'applique seulement à l'armée et à la police. D'autres disaient qu'il s'applique aussi aux prisons. Mais là où ils étaient d'accord, tous, c'était pour considérer que l'article 12 s'applique à la police et à l'armée. Il y avait hésitation sur les prisons, mais il n'y avait pas d'hésitation sur la police et sur l'armée. Et malgré cela, les pratiques ont évolué. Et tout récemment, il y a eu à Paris, le 15 décembre dernier, dans le cadre de la présidence française, le premier sommet européen de la sécurité privée. Si on regarde la préface du livre blanc qui a été rédigé à cette occasion, les États d'Europe, sont incités à coproduire des solutions publiques-privées de sécurité. L'expression employée, coproduire des solutions publiques-privées de sécurité. Alors, il y a une crainte. Il y a une crainte parce que ce type de coproduction facilite les interconnexions entre les services de police publique et privée et les services de renseignement, qui, eux, sont couverts par le secret défense. Le risque, c'est de rendre quasiment incontrôlables ces nouveaux réseaux de sécurité. D'autant qu'il y a parallèlement développement de ce qu'on appelle société militaire privée, un défi supplémentaire pour le droit international, écrit Elisabeth Lambert dans un article sur lequel on reviendra plus tard. Car ces divers aspects de la privatisation de la force publique, je les ai à peine effleurés aujourd'hui, nous y reviendrons dans la troisième partie du cours, dans la mesure où ils contribuent aux fluctuations en ce qui concerne l'ordre mondial, l'ordre juridique mondial. Ils contribuent à un brouillage entre le dehors et le dedans, et donc nous retrouverons la question dans la troisième partie. Mais avant, il nous faut, la semaine prochaine, poursuivre dans cette étude des mutations de l'état de droit, vu l'ampleur des dérives telles que nous les avons observées dans le premier chapitre, se pose plus directement, et c'est ce que je verrai la semaine prochaine, la question du choix entre politique autoritaire et politique libérale. Et ce sera le thème donc, de notre prochaine leçon. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.